When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
He's got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're good.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 364 du podcast John Actu, la saison 10, toujours en cours, le débrief de la semaine 3, c'est parti, avec à mes côtés cette semaine Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut à tous.
Raoul Villeroy est là, bonjour.
Hello.
Le podcast toujours à distance, Covid oblige évidemment, avec notre premier cas positif qui n'est pas chez les Titans mais qui est chez Raoul hein, quand même.
Ouais.
Raoul, tu es notre premier cas, ça va, tout va bien?
Yes, tout va beaucoup mieux en tout cas.
Tu es officiellement positif, c'est toi qui l'as refilé aux Titans?
Ce n'est pas moi, malheureusement, j'étais un peu trop loin, mais non, je me suis contenté de le refiler à mes potes, c'était bien.
Bon, en tout cas, c'est déjà, on te souhaite d'aller bien.
Merci.
Et deuxièmement, on rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas encore vu l'info sur le site que c'est le développement imminent juste avant notre enregistrement. Donc, on vous donne de la breaking news si vous n'êtes pas allé sur le site ces dernières heures. Les Titans ont 3 joueurs positifs au Covid et apparemment vont fermer leurs installations jusqu'à samedi. La NFL a indiqué aux Steelers de continuer à se préparer normalement pour le match. Donc, on ne sait pas encore totalement. Il y a moyen de, comment dire, de déplacer un petit peu au niveau du calendrier. J'ai vu que les Steelers et les Ravens avaient leur semaine de repos au même moment. Donc, ils pourraient en fait jouer ce match-là sur leur semaine de repos. Et les Steelers affronteraient les Titans à la place des Ravens. Je ne sais plus, ça se joue sur les semaines 8, 7 et 8, si je ne dis pas de bêtises. Okay. Mais il y a moyen de gérer ça, en tout cas pour l'instant.
Sauf si en affrontant les Vikings ce week-end, ils ont aussi contaminé des mecs des Vikings.
Oui, bon, parlons pas de malheur. Hein. Pour l'instant,
ça
ils ont
y est,
pas
Raphaël, il est déjà là.
Pour l'instant, ils ont pas foutu le merdier partout. Donc, ouais. Donc voilà,
on croise les doigts.
Voilà, on croise les doigts.
En MLB, en baseball, il y a eu ça aussi rapidement. Il y a eu plein de cas partout. Tout le monde s'est dit c'est foutu et finalement la saison va aller au terme. Donc bon.
Ouais, de toute façon, en MLB, c'est jamais les mecs qui sont à 14 mètres les uns des autres.
Déjà, et puis tu peux jouer 3 matchs par jour, donc c'est pas très compliqué.
Voilà, en plus. Bon, la démonstration des Chiefs, la grinta des Bills, la classe des Packers, on débrief la semaine 3 avec évidemment aussi le bilan des Bears et plein d'autres choses. Au programme, nos top et nos flops en prime, l'émission débrief, c'est parti. Here's Mahomes, gets some pressure, man in his face, he's got Hardman wide open for the touchdown. McCole Hardman and Mahomes paid the price. Hit by Marlon Humphrey. Touchdown cheap. Ravens 20, Chiefs 34, c'était l'énorme affiche du Monday Night cette semaine, un très très beau match largement dominé par les Chiefs, une démonstration de Patrick Mahomes qui a marché sur l'eau, 385 yards et 4 touchdowns à la passe, aucune interception pour lui, un touchdown au sol en prime. C'est difficile de renouveler les mots pour parler de Patrick Mahomes, messieurs, quel match, quel joueur, incroyable. Est-ce qu'on peut quand même commencer par se demander si les Chiefs ne sont pas la meilleure équipe en NFL actuellement et même d'assez loin? Oh, alors si, Raoul, hein. T'hésites
si. Ah, non. Justement, Aujourd'hui, je vois pas d'autres équipes qui soient aussi fortes des deux côtés du ballon. Peut-être les Packers, on va en reparler tout à l'heure, mais en tout cas en AFC, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas de débat. La question pouvait se poser avec les Ravens. Bon, bah voilà, sur ce match-là, la réponse est assez évidente.
Raphaël, numéro 1, les Chiefs ?
Ouais, c'est les numéro 1 actuellement. Je pense qu'effectivement, ils ont une des inquiétudes avant le début de saison, c'était la défense. Quel visage elle allait montrer. Là, sur un match face à l'attaque des Ravens, on a quand même été plutôt rassuré par ce visage défensif des Chiefs avec encore un très bon Chris Jones. Donc, on a envie de dire que l'attaque est toujours aussi terrible. Et si la défense confirme les progrès qu'elle semble faire depuis le début de saison, ça devient très, très complet du côté de Kansas City, sans aucun doute.
Est-ce que ce match, quand même, finit pas par en dire plus sur les Ravens que sur les Chiefs ? Même si, évidemment, c'est une énorme prestation face à une défense de Baltimore qui était très forte. Mais Lamar Jackson l'a dit, c'était le même match que contre Tennessee. Est-ce que ça veut dire, du coup, qu'il y a une recette pour battre Baltimore ? Puisque les Chiefs ont reproduit ce qu'a fait Tennessee.
Le fait est que, je te rejoins sur le fait que ça en dise plus sur les Ravens, dans la mesure où tu vois que leur attaque a l'air quand même très unilatérale. Là, il y a seulement 70 yards en tout à la passe, en 15 lancés. Pour Lamar Jackson, c'est très peu, et quand tu as une attaque aussi explosive que celle des Chiefs en face, tu dois pouvoir, je sais pas, varier un peu les plaisirs et être capable de suivre. Là, ils n'ont pas du tout été capables de le faire, donc peut-être que déjà on commence à voir des limites de ce côté-là.
Alors attention, hein, quand je dis il y a une recette pour battre les Ravens, je ne dis pas qu'elle est facile.
Ah bah non.
Attention, mon boulanger a une recette de mille feuilles incroyable, ça ne veut pas dire que je saurais le faire. Donc Raphaël, est-ce qu'il y a une recette ? Les Chiefs ont beaucoup blitzé sur 35% des actions de passe de Jackson contre 29% d'habitude pour les autres équipes. Ils ont limité les coureurs, ils ont forcé Jackson à rester dans la poche. Et ça marche, force est de constater, 15 sur 28, 97 yards et un touchdown pour Lamar Jackson, c'est pas des stats de MVP à la passe là. Hein.
Non, c'est sûr, ils ont appliqué un des éléments clés qui est bloqué ce jeu au sol des Ravens. Même si on y reviendra peut-être quand on parlera de Baltimore, mais Baltimore, je trouve, a un peu vite abandonné son jeu au sol malgré tout dans ce match. Et après, effectivement, ils ont gagné une bonne partie des match-up face aux receveurs. Et là, peut-être qu'on commence aussi à percevoir qu'il manque d'un gros receveur peut-être du côté de Baltimore, un gros receveur de possession, comme on dit, qui est capable de faire bouger les chaînes. Parce que t'as des mecs comme Brown, tout ça, qui sont assez explosifs, mais qui manque peut-être encore de talent à ce niveau-là. Et puis, hein, Lamar Jackson, qui a été pas très précis sur ses lancers en profondeur, notamment. J'ai en tête deux passes vraiment ratées à ce niveau-là, dans la profondeur. Donc, ça semble un peu la clé. Bloquer le jeu au sol, forcer Lamar Jackson à lancer en profondeur, jouer les erreurs là-dessus. Donc, après, il y a eu quand même pas mal de drops, hein, du côté de Baltimore, qui n'ont pas facilité la tâche, mais en tout cas les Chiefs ont repris quelques éléments de la défense des Titans sur ce match-là, et ça a l'air d'être un peu le point faible, on va dire, le point faible de Baltimore, effectivement.
Alors, ceci étant dit, évidemment, Jackson est le symbole parce qu'il est MVP, mais derrière, tout est loin d'être sa faute. Il y a aussi la ligne, quand même. Il a pris 10 sacks en 3 matchs. Ça fait plus de 3 sacks par match. L'an dernier, il en avait pris 23 en 15 matchs, donc ça faisait environ 1,5 par match. Ils ont quasiment doublé. Il y a le départ de Marshall Yanda, notamment. Ça se sent. En tout cas, dans les stats, ça se sent.
Ah bah, ça se sent dans les stats, et ça s'est même vu hier, parce qu'on a quand même vu une ligne offensive qui... sur le jeu de course, plus ou moins, laisser l'adversaire franchir la ligne de scrimmage et donc déjà mettre en difficulté le coureur adverse. Donc ça se sent. J'ai envie de croire qu'ils peuvent trouver la bonne combinaison en interne et progresser à ce niveau-là, mais c'est sûr qu'il y a une baisse de niveau à ce niveau-là et qui explique en partie les difficultés de l'attaque de Baltimore hier soir.
Raoul, toi aussi, tu penses qu'ils ont abandonné leur jeu au sol trop tôt, les Ravens ? À un moment, il y a quand même 13-10, 20-10, bon, ça reste dans leur corde, on va dire, hein, au milieu du deuxième quart.
Mais est-ce qu'ils ont vraiment eu le choix, dans la mesure où, enfin, tu te doutes que Kansas City et Mahomes, c'est une attaque qui est capable d'accélérer beaucoup, et je comprends peut-être l'idée aussi de te dire que si tu prends trop de retard, t'auras pas forcément de quoi rattraper. Là, on l'a vu, en plus, Jackson est souvent sous pression. Donc, peut-être qu'ils se sont dit que c'était le meilleur moyen de laisser Mahomes en dehors du terrain et de gagner du temps et de progresser. Jackson est capable de le faire. Ingram est capable de le faire. sur le plan, ça, sur le papier, ça se tient. En fait, ça a juste pas du tout marché, mais le plan est pas ridicule au départ.
Raphaël.
Ouais, non, mais je peux comprendre l'envie d'accélérer aussi un peu le jeu. Après, malgré tout, je trouve, moi, je pense sincèrement qu'ils ont abandonné trop tôt le jeu au sol. Parce que, in fine, quand tu regardes en première mi-temps, les yards par portée sont pas ridicules au sol. De mémoire, ils sont autour de 4,5 yards par portée au sol en première mi-temps. Le score est, enfin, au début, à la fin du premier quart-temps, ils sont encore dans le match. Enfin, voilà, moi, je pense que ça a été une des erreurs de Baltimore en attaque, c'est d'avoir lâché le jeu au sol. Et après, je pense qu'ils en ont fait d'autres en défense avec un play calling. Trop de blitz face à Patrick Mahomes, ça peut pas marcher. Ouais. Enfin, je pense que là, ils ont blitzé à tout va sur Patrick Mahomes. Et forcément, face à Patrick Mahomes, c'est une telle escouade de receveurs. Quand t'essayes de blitzer autant, bah, tu te fais découper derrière sans. Enfin, on l'a vu, par exemple, quand Mahomes a eu du mal la semaine dernière face aux Chargers, t'avais des Chargers qui étaient capables de mettre la pression avec 2-3 joueurs sur Patrick Mahomes et qui jouaient, en gros, qui étaient en 4 joueurs pour rusher et les 7 autres joueurs défendaient la passe. Alors là, les Ravens n'ont pas du tout fait ça et ils se sont fait découper à plusieurs reprises. Et par contre, je pense que ça indique aussi sur le fait que si tu blitz Mahomes, tu te fais découper.
Oui, mais c'est un peu l'inverse de la tactique qu'il faut employer contre les Ravens, en fait.
Ouais. Oui, exactement.
C'est-à-dire
ouais.
que tu mets beaucoup de monde en couverture pour stopper Mahomes et tu mets beaucoup de monde pour stopper la course quand tu joues les Ravens. Donc c'était vraiment une belle opposition de style. Après, quand on parle de défense, celle des Chiefs, c'est pas la meilleure de la ligue. Mais au moins, là, elle a prouvé qu'elle peut appliquer un plan ciblé. Et ce qui est déjà ça dans une NFL où les défenses sont pas à la fête en ce moment, je pense qu'on va en reparler au fur et à mesure de cette émission, mais j'ai été très choqué par ça cette semaine. Mais au moins une défense opportuniste qui peut appliquer un plan et qui a quelques joueurs de talent, parce que Chris Jones arrache encore un fumble et fait encore du grabuge, c'est quand même des bons éléments, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on a quasiment pas parlé de Patrick Mahomes alors que c'est la star de la soirée, mais dans les faits, voilà, l'important c'est quasiment que la défense ait fait son boulot, et en fait oui. Lui maintenant on a l'impression qu'il peut déchirer n'importe qui, quoi.
Surtout ce que je trouve marquant, c'est que là il prend 0 sac face à cette défense de Baltimore, que vous l'avez dit, il se fait beaucoup blitzer. La semaine dernière c'était limite, et d'ailleurs on en avait parlé avec Greg dans la preview, on se disait est-ce que la ligne offensive qui a souffert face aux Chargers, elle va être capable de contenir cette défense de Baltimore, et là bah, il l'a fait plus que la contenir, c'est-à-dire qu'il l'a baladé. Donc effectivement, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est pas la solution, et que de toute façon Mahomes, on a l'impression que quelles que soient les conditions dans lesquelles il est, un peu comme Russell Wilson d'ailleurs, il est capable d'aller chercher n'importe quoi.
Bon, les Chiefs et les autres actuellement en NFL en tout cas. Après, on s'inquiète pas outre mesure non plus pour les Ravens.
Non, mais peut-être que les autres équipes vont prendre un peu des idées de ce qu'ont fait les Chiefs.
Ça c'est sûr.
Et que ça pourrait les embêter plus tard.
Ça, c'est sûr qu'ils regardent. Les Bills 35, Rams 32, c'était le plus beau match de la série de 19h dimanche. 28-3, on a eu une alerte 28-3. Les Bills menaient 28-3 avant de se faire remonter et dépasser. Et puis, ils se sont rappelés qu'ils ne sont pas les Falcons. Alors, ils sont allés chercher le drive de la victoire. Ça a été un vrai match de série. Les Bills marquent 4 touchdowns à la suite pour commencer. Les Rams marquent 4 touchdowns à la suite ensuite pour repasser devant. Finalement, le drive de la victoire est pour Josh Allen. 75 yards pour marquer le touchdown de la gagne à 15 secondes de la fin. L'apprentissage des Bills continue. Ils sont passés pas loin de la catastrophe, mais ils s'en sortent, et justement c'est un peu le signe d'une bonne équipe, voire belle équipe, voire très bonne équipe en devenir, quand on commence à se sortir de ce genre de traquenard ou d'écroulement.
Josh Allen continue de faire une forte impression, et ce début de saison va dans ce sens là je le trouve à l'aise dans la poche, mentalement c'est fort de réussir à revenir comme ça. Mais ça, de toute façon, j'en suis convaincu depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est le coaching staff, et on va pouvoir parler d'autres coaching staff, je pense, dans cette émission. Mais quand tu vois ce que McDermott arrive à faire avec cette équipe des Bills, moi, je comprends. Enfin, pour moi, c'est peut-être l'un des, voire le meilleur coach de la ligue aujourd'hui, parce que cette équipe des Bills, sur le papier, elle n'est pas exceptionnelle, mais avec le matos qu'il y a, le rendu, tu peux difficilement avoir beaucoup mieux, je pense. Donc, c'est vraiment un super boulot, et il est bien guidé justement par ce Josh Allen qui est un espèce de leader en puissance de cette équipe.
Je vois Raphaël hocher la tête, je suis assez d'accord. Je pense qu'en effet, sur le papier, elle commence à être très très sérieuse, cette équipe. Autant il y a deux ans, le job de McDermott était énorme par rapport au matos qu'il avait, autant là, il commençait à y avoir du monde quand même.
Ouais, moi c'est un peu ce que j'ai en tête. C'est, là, je trouve que si tu regardes le roster attaque-défense, les titulaires, je vois pas tant d'équipes que ça qui ont un meilleur roster des deux côtés du terrain que les Bills. Sincèrement, à l'heure actuelle,
on avait parlé des Saints au début de la saison, mais en ce moment, c'est pas forcément la fête. Donc,
superstar, c'est ça quoi. T'as pas une gigastar comme t'as des Mahomes, comme t'as des Hopkins, comme t'as des Wilson.
Ça, j'ai envie de dire, il y a pas une gigastar parce que c'est aussi un peu de la faute des médias. Enfin, les joueurs de Buffalo ont toujours un peu plus de mal à être médiatisés. Mais actuellement, un Tre'Davious White en cornerback. Enfin, si c'est pas une star, c'est juste parce qu'il joue à Buffalo.
Il
serait cornerback chez les Packers. Enfin, il serait.
Après, je vois ce que veut dire Raoul au sens où, mais c'est pas forcément un mal. En attaque, il y a pas de superstar, mais t'as quand même beaucoup de matos, t'as beaucoup de profondeur. Toi qui aimes bien, c'est un peu le Bayern Munich, tu vois, du truc. Il y a beaucoup de joueurs de qualité, un bon groupe, un bon coaching. Il y a pas un Ronaldo ou un machin, mais t'as Diggs, Thielen, ça c'était aux Vikings, mais t'as Diggs, t'as Brown, t'as comment il s'appelle le troisième receveur qui est Cole Beasley, merci. Enfin voilà, il y a du matos, il y a Knox, il y a des bons coureurs maintenant.
Singletary en sortie de backfield aussi, très bon.
C'est ça. Donc ils se sont construits une ligne au fur et à mesure. C'est vraiment un groupe dense. Donc moi je suis plutôt d'accord avec Raphaël. Et après, Josh Allen, c'est quand même la cerise sur le gâteau. 10 touchdowns, une seule interception depuis le début de l'année. Ce drive de la victoire. Raoul l'a dit, il est convaincu. Raphaël, est-ce que tu commences à rentrer dans le camp des convaincus?
Il est clairement très très intéressant sur ce début de saison. Là, il sort un gros dernier drive, un bon match même de manière plutôt globale. Hein. Je commence à être convaincu parce que tu vois les progrès, ils sont tangibles. Visiblement, des échos qu'on a quand même, il a eu un vrai poids dans le vestiaire en plus à Buffalo. Enfin, il a écouté et suivi par ses partenaires, ce qui est quand même jamais anodin pour un quarterback. Et on sait que certains autres quarterbacks ont peut-être coulé plus jeune à d'autres moments, c'était aussi en partie à cause de ça. Après, je pense qu'il faut aussi féliciter la construction de l'équipe qui lui donne un beau paquet d'armes pour sa troisième année quand tu compares avec d'autres quarterbacks de la ligue en troisième année. Et puis, on n'en parle pas beaucoup, mais le coordinateur offensif, Brian Daboll, fait un super taf. Enfin, quand tu regardes sur ce dernier drive là, de la victoire, le jeu dessiné pour le tight end où Josh Allen, il y a une play action, Josh Allen le trouve. Le tight end est totalement tout seul. Voilà, il y a quand même du beau boulot qui est fait quand même du côté de Brian Daboll pour mettre en avant vraiment au maximum toutes les qualités de Josh Allen. Ça, plus la construction avec des belles cibles, un jeu au sol intéressant, de la ligne offensive. Enfin, après, on n'est pas, comme tu le dis, on n'est pas surpris parce que ça fait 2-3 ans qu'on trouve qu'à Buffalo, ça construit bien et que ça va dans le sens de la progression. Donc, il le confirme.
Alors, par contre, tu as parlé de Tre'Davious White. Un mot sur cette défense. Ils encaissent 478 yards dans ce match. Ils sont à 380 yards encaissés par match depuis le début de la saison. Est-ce que c'est une déception ou bien est-ce que ça les rend encore plus terrifiants en se disant que c'est pas le niveau de cette défense, ils vont progresser?
Regarde, sincèrement, si tu refais le scénario des trois matchs, ils sont à chaque fois très, très devant au score. Et tu as un peu cette baisse de régime. Alors, qui à mon avis du coup la bonne nouvelle c'est que c'est une baisse de régime comme ça et un saut de concentration ça se corrige normalement à part Dan Quinn qui n'arrive pas à le corriger, un bon coach va le corriger. Donc contre les Dolphins ils menaient largement avant de se faire attraper, là quand même ils mènent 28-3, la défense elle est impériale et puis t'as ce momentum qui change où ok la défense finit par craquer, mais je pense que pour eux les stats sont un peu trompeuses parce que t'as une équipe qui depuis le début de saison domine largement ses adversaires pendant 3 quarts temps à peu près à chaque fois avant de se faire remonter. Donc
Les Rams ont aussi une belle attaque, c'est un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Il y a une énorme erreur d'arbitrage qui donne une interception aux Rams, il y a une énorme erreur d'arbitrage qui tue les Rams sur le dernier drive des Bills alors qu'ils semblaient les avoir défendus et avoir fait le taf. Ça reste quand même, Raoul, une équipe qui est très dure, qui va rester très dure à prendre toute l'année là.
Oui.
Tu es obligé de t'avouer vaincu.
Je la voyais venir celle-là. Je suis obligé de reconnaître que ce qui était mon idée au départ, avant le début de la saison, que Jared Goff avait peut-être pas de quoi emmener cette équipe au plus de quoi d'ailleurs lui-même et autour de lui hein. Pour moi bon il y avait plein de petites choses qui n'avaient pas finalement et ben tout a l'air de bien s'emboîter et la mécanique a l'air de tourner très bonne surprise de Darrell Henderson au sol qui peut peut-être être leur nouveau Todd Gurley donc ouais voilà je suis obligé de reconnaître que j'ai sous-estimé cette équipe des Rams qu'elle va être difficile à jouer pour plein d'équipes et que Jared Goff et Sean McVay font un duo à succès.
Et Raphaël, toi, t'as dû te faire plaisir en voyant Aaron Donald faire un chantier fou avec deux sacs, trois quarterbacks.
Hein.
Ouais, il était monstrueux, bah, surtout sur l'un des derniers drives qui permet juste avant que les Rams repassent devant, où il écrase plusieurs fois Josh Allen pour vraiment casser la dynamique des Bills. Bah oui, non, mais c'est le Aaron Donald qu'on connaît depuis quelques saisons, j'ai envie de dire. C'est
un des rares défenseurs qui. Parce que le match tourne aussi grâce à lui, quoi.
Oui.
Ça bascule pas que parce que l'attaque des Rams se met en œuvre. C'est parce que Donald met aussi la seconde, donc ça reste impressionnant.
Pour les Rams, c'est une défaite dommage, vu le scénario du match. Après une telle remontée, perdre comme ça, c'est forcément dommage. Mais je trouve par rapport à certaines inquiétudes qu'ils avaient peut-être avant la pré-saison, ils ont de quoi bosser sereinement sur pas mal de points forts. Et quand tu regardes les autres adversaires en NFC, en dehors des Packers et des Seahawks qui semblent plus forts à l'heure actuelle en NFC, j'en vois pas beaucoup d'autres qui semblent plus forts en NFC à l'heure actuelle.
Ah oui, non, ils vont être dans la course, clairement.
D'accord, c'est limite une bonne défaite. Il n'y a pas de bonne défaite en NFL, mais c'est une défaite qui, en tout cas, donne des certitudes.
C'est pas une galère, quoi. On reste en NFC avec Saints-Packers, 37-30 pour les Packers. Une troisième affiche en forme d'excuse, parce qu'on a quand même quasiment passé les Packers à la trappe la semaine dernière. On a oublié. Ouais. On a fait le résumé du match, mais en toute fin. les Packers qui avaient terminé les playoffs en queue de poisson, mais on peut pas leur reprocher d'avoir faibli sur la reprise. Ils avaient déjà gagné facilement la semaine dernière. Là, c'est une victoire convaincante contre les Saints. Aaron Rodgers a dit après le match qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise dans cette attaque. Que Matt LaFleur avait pris le rythme aussi, ça se voit. On a quand même une belle attaque, et là, pour le coup, équilibrée. Il y a du sol, il y a un Aaron Rodgers qui est plus à l'aise que jamais. Davante Adams, c'était pas là. On est dans un match où les deux receveurs numéro 1 n'étaient pas là. Et pour le coup, du côté de Green Bay, ça s'est moins vu, parce qu'il y a un Allen Lazard à 6 réceptions, 146 yards et un touchdown. Donc, finalement, ils sont allés chercher personne pour aider Rodgers pendant l'été. Peut-être qu'ils avaient tout sous la main. Le coach, le quarterback, les cibles supplémentaires. Et ça donne une équipe ultra dangereuse.
Ouais, finalement, c'est rigolo de voir comment Aaron Rodgers fonctionne beaucoup, je pense, un peu à la motivation, tu vois. La saison dernière, il avait l'air de bouder un peu, tout le monde disait ah, c'est peut-être la chute de niveau, machin et tout. Et là, depuis le début de la saison, il fait des stats historiques, il a un jeu au sol qui l'accompagne bien, il a des receveurs en veux-tu, en voilà, son coach qui se met à faire les plays pour qu'il puisse briller. Et peut-être que finalement, cette draft de Jordan Love l'a piqué là où il fallait pas que ça le pique, et lui retrouve un niveau digne de ses meilleures années.
C'est pas la classe de claquer un choix du premier tour juste pour motiver ton quarterback, Raphaël.
c'est cool quand tu peux te le permettre. Toutes les franchises peuvent pas se le permettre. J'espère que ça leur coûtera pas trop cher en fin de saison. Et on reviendra parce qu'il y a peut-être un secteur qui m'inquiète pour la suite, mais on y reviendra. Mais en tout cas, comme tu dis, l'attaque est vraiment hyper convaincante en ce début de saison, à l'image d'Aaron Rodgers. Mais je trouve que vraiment, au niveau des cibles, ils ont l'air d'avoir trouvé la solution en interne. Je pense au nouveau tight end qu'on commence un peu à voir, Tonyan et Sternberger qui enchaînent de plus en plus de réceptions, Lazard qui est en train de s'affirmer effectivement comme un receveur numéro 2, parce que bon, Davante Adams serait clairement le numéro 1 dans cette équipe et il y a zéro doute là-dessus. Mais puis la ligne offensive reste globalement solide du côté de Green Bay, donc on a l'une des très bonnes attaques de la NFL. Et forcément, quand Aaron Rodgers retrouve un peu de ce qu'avait fait le grand Aaron Rodgers il y a 2-3 ans, 4, 5, 6 ans, ça facilite forcément.
Ils ont la deuxième attaque au sol de la Ligue au moment où on se parle, 171 yards par match. Là, ils en ont eu 98, ils sont en dessous de leur moyenne, mais ils ont quand même la deuxième attaque au sol. Ils ont fait un match monstrueux. C'était la semaine dernière qu'ils ont marché sur les trois. Enfin, en tout cas, s'ils sont à 171 de moyenne.
T'as raison, on n'en parle même pas d'Aaron Jones, mais qui s'est aussi confirmé comme un des meilleurs coureurs de la Ligue, clairement.
Non, clairement, on a un Rodgers qui est de plus. Je trouve que l'interview en fait était significative quand il parlait d'être plus à l'aise et que tout le monde était plus à l'aise. Clairement, il fallait peut-être cette première année de rodage et il commence à se comprendre. Et en tout cas, ils ont une attaque qui est terrifiante. De l'autre côté, il y a eu un solo d'Alvin Kamara avec 13 réceptions, 139 yards et 2 touchdowns, 58 yards au sol en plus. Il fait un énorme match, mais c'est aussi quand même le témoin de l'absence de Michael Thomas. Et. De l'absence de bras de Drew Brees pour lancer en profondeur, parce que là j'ai quand même une petite un peu de biscuit pour Raphaël qui s'inquiète de la puissance du bras de Drew Brees depuis quelques temps. Il n'a pas tenté une seule passe qui a fait plus de 20 yards dans les airs dans ce match. Il n'en avait tenté qu'une seule sur la semaine d'avant et que deux sur le premier match, donc il a tenté 3 passes de plus de 20 yards en 3 matchs pour l'instant.
Ouais, c'est un peu ce qui m'inquiète depuis quelques temps avec Drew Brees, c'est cette difficulté, j'ai l'impression quand même, dans la force de lancer, et donc du coup, de pouvoir jouer en profondeur, ce qui est un peu embêtant à l'heure actuelle en NFL de pas pouvoir jouer le big play, encore plus quand Michael Thomas n'est pas là, parce qu'à la limite, quand Michael Thomas est là, il couvre ça dans le sens où c'est un joueur, comme on dit, c'est un receveur qui fait bouger les chaînes. Il est capable de beaucoup prendre dans le slant, sur de la screen, enfin, de beaucoup faire des petits gains qui font avancer la balle parce qu'il gagne les réceptions au contest. Voilà. Mais quand tu l'as pas et que du coup, faut peut-être aller jouer un peu plus en profondeur, là, les Saints ont l'air d'être plus en difficulté là-dessus. Et effectivement, heureusement que t'as un Alvin Kamara en très très grosse forme en sortie de backfield. D'ailleurs, si Kamara est à 13 réceptions, enfin. C'est pas pour rien, c'est que non. Drew Brees va très vite le chercher sur de la petite passe parce que c'est un peu plus compliqué derrière sur les autres, donc voilà.
C'est à surveiller, mais ça limite l'attaque, hein, clairement.
À surveiller.
Ça limite clairement l'attaque. Du côté des défenses, on a eu plus de mal. Alors évidemment, il y a deux bonnes attaques, mais on attendait quand même cette défense des Saints, notamment, un peu plus forte, Raoul.
Je suis d'accord. Maintenant, là, sur ce match-là, il joue les Packers, c'est difficile de jauger là-dessus. La semaine dernière, il joue des Raiders en forme. Bon, première semaine, ils battent les Buccaneers, mais pareil, ils prennent pas mal de points aussi. Pour l'instant, ils ont joué des grosses attaques, mais problème, c'est qu'en NFL,
au bout d'un moment, il faut les arrêter.
Tu vas pas pouvoir aller gagner en te disant je vais jouer des petites attaques. Donc, oui, c'est compliqué. Je me rends pas bien compte dans quelle mesure est-ce que c'est ça qui peut les tirer vers le bas, parce que t'as quand même s'il est moins fort, t'as quand même Drew Brees et t'as quand même Alvin Kamara et t'as quand même plein de playmakers en attaque, donc au pire tu peux suivre un rythme offensif élevé, mais ça reposerait, et je pense qu'on est en début de saison donc on s'en rend pas encore trop compte, mais ça reposerait un peu tout l'effectif aussi d'avoir une défense un peu plus solide, et peut-être que ça va finir par leur coûter à partir de la mi-saison.
Entre le bras de Brees et cette défense, il y a quand même quelques voyants qui s'allument, moi je trouve, dans le cockpit pour New Orleans. Surtout que ils débutent pas souvent très très bien. C'est pas une équipe qui débute très fort. Mais voilà, c'est avec l'âge de Brees et l'expérience de cette défense, je sais pas. C'est un truc à surveiller, mais je trouve que c'est plus inquiétant que prévu en tout cas. Après, j'ai l'impression que toutes les défenses sont en galère. On peut quand même en parler maintenant. Parce que celle des Packers aussi, je sais que Raphaël a apprécié énormément la technique de plaquage de Jair Alexander durant cette la technique dite du je me jette sur le mec et je pogote sur Alvin Kamara, mais toutes les équipes ont l'air de galérer en défense, et j'ai l'impression que pour le coup le manque de préparation a clairement plus désavantagé les défenses que les attaques.
Écoute, ça a l'air, en tout cas sur ce début de saison après 3 semaines, on a comme tu dis, des défenses en grande difficulté, même dans des défenses où il n'y a pas beaucoup d'ajouts, de renforts avec des coordinateurs défensifs qui sont installés. On a quand même vu des Patriots en grande difficulté, par exemple face aux Seahawks dans le backfield défensif, ce qu'on n'avait pas l'habitude quand même de voir du côté des Patriots. Là, comme tu dis, les Saints, on attendait mieux. Les Packers aussi, mine de rien, ils en prennent quand même 30. Il y a des records de touchdown quasiment tous les week-ends qui s'enchaînent.
Il y a beaucoup, beaucoup moins de pénalités sifflées aussi, ce qui change le.
Ouais, mais en général, les pénalités
sauf contre les Saints.
Tendance à aller vers l'attaque en plus, donc tu vois, c'est même. Enfin.
Mais en tout cas, pour vous donner la stat, il y a 7 défenses après 3 semaines qui encaissent plus de 400 yards par match. Sur la saison régulière l'an dernier, il n'y en avait que 2.
Voilà.
Sur 16 matchs, donc ça peut.
Non, ça peut revenir, mais tu vois, la tendance, en tout cas sur les 3 premiers matchs, elle est vraiment, vraiment costaud. Je peux même regarder au niveau de. Ouais, non, qui prend. qui prennent plus de 350
yards. Mais même
yards,
au niveau des points, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de points marqués. Enfin,
ouais.
Je suis d'accord.
Et bah écoute, on peut regarder qui en prend plus de...
20, tu vois, moi je trouve 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 équipes prennent plus de 20 points en 2019 et en 2020...
Compte combien on prenne moins, ce sera plus rapide.
Et bah, 1, 2, 3, 4, il n'y a que 5 équipes qui prennent moins de 20 points actuellement.
Contre 11 l'an dernier.
Du coup, ouais.
Ouais, c'est... Ouais. Bon, alors bien sûr, ça peut se calmer, mais effectivement, les défenses ont l'air un peu à la rue en ce début de saison. Alors, pareil, hein, est-ce que c'est les attaques qui jouent mieux pour le moment? Elles sont mieux coachées? Enfin, tu vois...
Je pense vraiment que les matchs de pré-saison et même le camp d'entraînement plus engagé... Clairement, il n'y a pas de substitut pour rentrer dans le lard d'un mec de 120 kilos lancé, quoi.
C'est vrai.
Je pense que c'est surtout c'est ça, quoi, les contacts et les trucs.
Alors que les routes, les corps, ça se travaille plus facilement. Ouais,
courir, esquiver, attraper, voilà, mais rentrer dans le... plaquer un mec.
Dodgeball, t'es à ton truc.
dodge, je sais plus c'était quoi, oui, en effet.
Et dodge en première aussi, je crois.
C'est ça, toujours en dodge. Voilà pour les trois affiches de la semaine. On passe au reste des matchs. Et là encore, plein de défenses qui ont raté.
Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet, all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast.
Quelle voix mélodieuse, Nate Burleson.
Aïe, 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 quel frère.
Incroyable, incroyable. Qui était... c'est toi qui l'as pris au Super Bowl,
ouais,
non, Nate
Burleson? Ouais, exactement, à Miami.
Ça va, il était sympa?
Il était hyper sympa, ouais. C'est pour ça que je suis très content d'entendre ce jingle, en vrai.
Bon, il a joué pour les Seahawks, si je ne dis pas de bêtises, au cours de sa carrière. Je crois
les Lions aussi.
Un passage à Seattle. Bon, voilà, en tout cas, c'était pour essayer de faire un Jean-Michel transition, puisque nous passons aux Seahawks, 38, Cowboys, 31, 14 touchdowns dans 3 matchs pour Russell Wilson, record NFL battu, puisque c'était Patrick Mahomes qui le détenait avec 13 touchdowns en 2018 sur les 3 premiers matchs. Raphaël, je t'ai lu sur Twitter dire « il n'est plus en feu, c'est juste son niveau normal ».
Bah là en tout cas depuis 3 semaines effectivement c'est forcé de constater que c'est son niveau à l'heure actuelle parce qu'en plus il fait un 3ème quart-temps pas de très bonne qualité et malgré tout il s'en sort de cette manière là alors il est aidé hein, parce que sa ligne offensive tient mieux que prévu dans le pass pro. DK Metcalf et Tyler Lockett. Alors Metcalf bien sûr a eu un espèce de paix au cerveau avec ce fumble devant la end zone, mais
magnifique.
Mais malgré tout,
le retour.
Malgré tout, depuis 3 semaines, Metcalf met la misère à peu près tous les cornerbacks qui essayent de le suivre. Tyler Lockett est toujours aussi efficace et précieux. Bon bah voilà, il est bien entouré. Le coaching staff lui fait enfin confiance, ça roule.
Après Mahomes c'est l'anti-brise. Moi j'ai l'impression qu'il ne peut lancer
Wilson,
qu'en profondeur.
Tu veux dire.
Oui, Wilson, j'ai dit qui?
Mahomes.
Ouais, bah ouais, les
bah,
deux,
oui,
de toute façon.
Non, mais, on est dans...
mais Wilson, c'est l'antibrise. Là, tu vois toutes les passes, c'était des bombes, quoi. Ça partait et il est incroyable en profondeur, donc il aurait tort de se priver. Hein, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a que ça à dire en ce moment. Raoul, il y a un truc à ajouter sur Wilson ou
Non, bah c'est dommage, il sera pas MVP à cause de Mahomes, mais voilà, oh là, il est
impressionnant. Bah, en tout cas, il y a un vrai trio, on va dire Wilson, Mahomes, Rodgers qui se détache pour l'instant après 3 semaines, mais la route est encore longue. Bon, c'est beau, mais il faut qu'il fasse ça toutes les semaines parce
c'est
que sa défense a autorisé 522 yards. Ils sont quasiment à 500 yards par match autorisé. Je crois que c'est un record de la pire défense sur 3 semaines. Pour
décidément.
Ils ont pris un camion et un camion de yards. Là, ils se sauvent avec une interception en fin de match, mais c'est pas tenable de prendre autant de yards. Ils n'ont pas de pass rush vraiment à proprement parler et ils prennent un bouillon terrible. Alors, on l'a dit, c'est le cas pour tout le monde, mais là, c'est beaucoup quand même. Hein.
Bah, du coup, Wilson est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que tu te dis avec un mec comme ça, c'est pas grave, j'arriverai toujours à revenir. Mais au bout d'un moment, les nerfs sur le banc de touche doivent être en pelote tout le match. C'est terrible. Heureusement, je suis pas fan des Seahawks, je sais pas comment Camille fait. Et moi, je pourrais pas. Tu te fais découper à chaque fois et tu reposes sur un des meilleurs joueurs des 10 dernières années pour t'en sortir. Enfin, c'est pas tenable, je pense.
Raphaël, il n'y a pas un moment où justement ça s'il continue comme ça, je veux dire en playoff ça coince, il y a un moment où tu as une équipe qui défend un peu mieux, qui te perturbe, si tu continues à prendre des camions.
Oui, non mais ça peut effectivement, ça peut poser problème en fin de saison. T'as cette ligne défensive, comme tu le dis, qui a du mal contre la course et au niveau du pass rush. Alors visiblement, il pourrait peut-être faire venir Damon Harrison contre la course, qui pourrait apporter un peu de poids et de muscle, on va dire, au centre de la ligne. Mais bon, ça, il te manque toujours ce pass rusher élite qu'ils avaient l'an dernier et qu'ils n'ont plus forcément. Et après, le backfield défensif, ouais, ils sont en difficulté sur le poste de cornerback. Griffin, Flowers sont en difficulté. Dunbar n'est pas au niveau des Redskins de l'an dernier, donc ça leur fait un sacré coup derrière. Bon, j'ai envie de dire que l'avantage pour eux, c'est que de toute manière, ils ne peuvent pas faire pire en défense.
Ah bah oui.
Ça ne peut que progresser. Ouais. Faut trouver les ajustements en interne pour améliorer tout ça. Bon, effectivement.
Non, mais tu l'as dit, ça ne peut pas être pire, c'est déjà ça.
Ouais, mais hors blessure, bien sûr.
Jamal Adams, d'ailleurs, a été un peu touché dans
ouais,
ce match. Problème de défense aussi à Dallas parce qu'ils prennent plus de 32 points par match et au final ils ont c'est un peu le même scénario. Alors ils n'ont pas un Russell Wilson pour transcender encore plus l'attaque, mais du coup ça incite pas non plus l'attaque à jouer tranquillement quoi, quand tu sais que tu prends des wagons de points derrière.
C'est ça, pour le coup on peut pas reprocher grand chose à Dak Prescott qui fait 100 lignes offensives, et ça il était plus habitué parce que quand tu vois la ligne offensive des Cowboys avec toutes les blessures à l'heure actuelle, ce week-end encore la paire de tackles c'était deux mecs qui avaient pas joué depuis 2 ans quasiment. Il fait ce qu'il peut, Dak Prescott, hein. Franchement moi je trouve que moi qui n'ai pas toujours été convaincu par lui, là je trouve qu'il fait un vrai bon début de saison pour essayer de limiter la casse, parce que comme tu le dis, sa défense.
Raoul, il est content que tu défendes Prescott.
J'attends, franchement, on peut rien lui reprocher depuis 3 semaines.
Non, clairement.
Là, tu vois, la défense. Enfin, c'est une défense où, quand même, le meilleur joueur depuis le début de saison, c'est Aldon Smith, qui n'a pas joué au football depuis 5 ans. Alors, je pense que le mec est un talent générationnel, en fait. Il s'est perdu en chemin, il n'y a pas de souci. C'est normal qu'il soit très bon. Mais il y a un problème. DeMarcus Lawrence ne fait plus rien. Le backfield défensif est à la rue, mais alors à la rue façon façon très très violente. Donc là aussi, j'ai envie de dire, heureusement pour eux, il y a une division pourrie et ils peuvent que s'améliorer. Mais le problème c'est la défense. Faut travailler la défense. Il y a pas de mystère.
Trevon Diggs à la rigueur qui surnage.
Ouais, mais bon, un rookie qui est leur
surnage,
meilleur joueur,
il coule plus lentement, ok, mais j'appelle même pas ça surnager, sincèrement. Ouais.
Bon, ils ont un différentiel de moins 4 sur des ballons perdus aussi, ça aide pas, il y a que les Vikings et les Eagles qui sont les seuls à faire pire. Tu l'as dit, il y a de l'espoir parce qu'ils jouent dans la NFC Est, et justement, transition, Eagles 23, Bengals 23, oui, vous n'avez pas rêvé, ils ont le même score parce que les Eagles ne se sont rapprochés que d'un demi-match de la tête de la division grâce à un superbe match nul. Alors, les blessures, c'est bien beau, mais ça commence à devenir une excuse un peu facile. Doug Peterson n'a même pas essayé de gagner en fin de prolongation. Donc, on est sur 4ème et 12, 20 secondes à jouer. Qu'est-ce que vous faites? Vous puntez? Vous tentez un field goal de 64 yards? Ou vous tentez la 4ème et 12?
Mais Raphaël, 64 yards, ils l'ont déjà fait. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas tenté.
Alors, 64 yards, en fait, c'est le record NFL.
Pardon. Moi, clairement, j'aurais tenté la 4 et 12. Hein. Je veux dire, ça me paraît pas incroyable dans le jeu de passe de réussir à gagner 12 yards avec des Akers, des Goddard au poste de tight end. Voilà, 20 secondes, c'est largement suffisant pour faire une passe. Un petit peu.
C'est ça, je pense, l'élément le plus important, c'est que c'est pas la dernière action.
T'as
le
temps mort.
T'as le temps d'avancer. En espérant 12 yards et de te mettre à portée du field goal de la gagne. Je sais plus s'ils ont un temps mort, honnêtement.
Parce que du coup, la passe, oui, si elle est réceptionnée 20... au milieu de terrain, t'as l'air. Ouais,
franchement, 20 secondes, l'action, elle doit manger 7-8 secondes, le temps de courir pour spiker le ballon, c'est jouable.
Il n'y a aucune raison que la passe soit réceptionnée au milieu de terrain. Non, mais je veux dire, le coordinateur offensif appelle des courses, enfin des réceptions vers l'extérieur, et tu réceptionnes. Il y a un moment.
Sauf chez les Chargers. Mais bon.
Ouais, ça, bon. C'est encore un autre.
En tout cas, ça donne un match nul. Il y a un bon drive de Philadelphie pour aller se remettre dedans en fin de match et éviter la catastrophe. Carson Wentz est à 29 sur 47, 225 yards, un touchdown, deux interceptions. Est-ce qu'on commence à douter de lui, de Doug Peterson, des deux, de l'un ou l'autre, qui vous voulez?
Bah, tu vois, je doutais pas de Pederson avant le match parce que, et on en parlait dans l'émission de la semaine dernière sur les coachs en danger. On avait écarté un peu Pederson en disant oui, mais bon, il y a plein de blessures, blabla. Et c'est vrai que depuis, je me suis fait reprendre par nos fans internes des Eagles qui m'ont dit mais vous êtes trop gentil avec Pederson, il est nul, il y a rien qui va. Bon, évidemment, ils sont toujours très mesurés, mais je comprends qu'il y a effectivement un truc qui commence à peut-être plus trop marcher. Et Pederson, est-ce qu'il est responsable? Je sais pas. Le fait est que là, ça a l'air de bloquer quelque part. Donc peut-être qu'il y a de la remise en question à faire. Je dis pas qu'il faut le virer, mais il y a un truc qui va devoir un peu changer quand même.
Si je me rappelle bien, Victor, donc, qui est notre fan des Eagles résident, nous a dit que c'était Frank Reich, le cerveau offensif, et je sais plus qui donnait la langue. Il a dit un truc comme ça. Bref, Raphaël, Pederson, ça commence à s'user un peu?
Oui, après, c'est pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de choses qui commencent à s'user, j'ai envie de dire, du côté de Philadelphie. Il y a quand même une gestion d'effectifs qui, sur le côté du salary cap, est toujours bien gérée parce qu'ils arrivent à toujours assigner des mecs sans avoir trop d'argent. Ça, c'est bien joué. Mais on a vu, il y a quand même depuis plusieurs années, l'incapacité à trouver des receveurs pour aider Carson Wentz, l'incapacité à trouver des cornerbacks, même si là ils ont essayé de faire venir Darius Slay. Bon, la greffe prend pas, mais et d'ailleurs je me demande même s'il était pas blessé sur ce match. Jim Schwartz, le coordinateur défensif, arrive plus à faire grand chose.
C'était ça dont parlait Victor.
Et Doug Pederson, effectivement, depuis le départ de Frank Reich, l'attaque de Philadelphie n'emballe personne.
Et puis ils vivent un peu dans le passé quand même, c'est-à-dire qu'il y a des cadres qui vieillissent.
Ouais,
moi, quand on me dit que DeSean Jackson est une option viable à la réception, il y a 5 ans, ouais, mais c'est pas un plan.
De toute façon, c'est à l'image de leur ligne défensive et ligne offensive. Hein. C'est des vétérans qui essayent de tenir la baraque autant qu'ils peuvent parce qu'il n'y a pas de remplacement. Et puis, tu l'as dit, Carson Wentz, ça commence. Enfin, pour le moment, il est dans le top 5.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
5 plus mauvais quarterback de la ligue à l'heure actuelle, ouais. Enfin sur le jeu, c'est sur ce qui est fait, c'est vraiment pas bon, donc c'est pas facile quand le problème vient potentiellement du coach
qui en est face... son remplaçant d'ailleurs à Vance.
Alors on a un tout petit son remplaçant, c'est pas Nate Sudfeld,
ouais, bon. Ça vaut pas le coup.
En tout cas, en face, il y avait tout l'extrême inverse. Joe Burrow à 31 sur 44, 312 yards, 2 touchdowns. Lui, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire qu'il se bat, il régale, il n'y a pas grand-chose autour. Mais alors, c'est dommage, il a mérité cette première victoire, franchement. Franchement, il l'a mérité. Vas-y, Raphaël.
Oui, non, mais il l'a mérité déjà presque la semaine dernière et presque la semaine d'avant aussi. Hein. Ils sont vraiment pas loin, donc c'est quand même ultra positif avec un quarterback rookie de réussir à serrer les matchs contre les équipes moins fortes de la ligue, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils aient un match serré face au Cador, mais en tout cas face à des équipes en difficulté. Les matchs sont serrés. En attaque, ça commence à bien se développer aussi avec son coaching staff. Bon, il y a encore beaucoup de trous sur beaucoup des squads et de lignes hein, dans cette équipe, mais au moins, tu as l'impression qu'ils vont dans le bon sens avec ce jeune quarterback, et c'est déjà beaucoup.
Il prend 8 sacs quand même hein, sur le match.
Ouais, oui, ça.
Oui, bah, y a très peu autour.
Ah ben en même temps, ouais, quand tu vois qu'ils reprolongent leur tacle droit, John Hart, que même les Giants, malgré leur ligne offensive, ne voulaient plus. Enfin, tu vois, c'est quand même.
Il y a du taf. Ils ont un quarterback, mais il va falloir le protéger à un moment ou un autre. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Non.
Bon. Falcons 26, Bears 30. Cette fois, les Falcons menaient 26-10 dans le dernier quart avant de s'écrouler. Mais ne vous inquiétez pas pour Dan Quinn, il a toujours un job au moment où on se parle. Je pense qu'il a des photos d'Arthur Blanc en train de tirer sur John Kennedy. Genre, je pense qu'à ce niveau-là, on est là. Je pense qu'il sait que c'est Arthur Blanc qui a vraiment tué Kennedy ou un truc comme ça. Première équipe de l'histoire à perdre deux fois dans une saison en menant de 15 points ou plus. Inutile de vous dire que c'est aussi la première fois que ça arrive deux fois de suite. La défense a autorisé 437 yards à une attaque menée à la fois par Mitchell Trubisky et Nick Foles. Donc il n'y a plus vraiment de mots pour décrire ce qui se passe à Atlanta. C'est un peu comme Mahomes, mais à l'envers. C'est le Mahomes de l'enfer, tu sais. Il n'y a plus rien à dire.
Le Mahomes de l'ombre.
Il n'y a plus rien à dire. On sait qu'il y a une attaque avec des potentiels. On sait qu'il y a une défense qui n'est pas menée par un coach défensif. Et voilà. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux dire sur ce match des Falcons.
Ah, des Falcons, pas grand-chose.
Bon, bah, des Falcons, ouais, pas grand-chose. Alors, soyons efficaces et passons aux Bears. Nick Foles est désormais le titulaire. Est-ce que ça dit quelque chose, cette victoire, sur le niveau des Bears? Parce qu'ils sont à 3-0.
Non.
C'est, bah, pour moi, c'est un trompe-l'œil.
Oui, ça veut peut-être dire quelque chose, mais ça veut pas dire que c'est une bonne équipe en tout cas.
Ah, on est d'accord. Raphaël, le bilan des Bears?
Ouais, oui, mais comme ça arrive souvent hein, en NFL, qu'en début de saison, t'es des bilans un peu flatteurs, plus que. Écoute, ils ont au moins le mérite de se battre et d'avoir une défense correcte, ce que au moins 10 équipes dans la ligue n'ont même pas.
Donc, exactement. Alors, non, mais c'est juste que je voulais pas être le seul à me faire traiter de haters.
Non, ouais.
C'est une équipe qui a des qualités défensives qui sont indéniables. Il y a de la qualité. Après, ils perdent Tariq Cohen, qui est un peu leur ouais, deuxième vitesse au sol. Ils ont Allen Robinson quand même, ce qui est un très bon receveur. Mais
qui est quasiment invisible en plus là, sur ce match. Enfin, c'est Miller qui fait beaucoup sur ce match, ouais, en mémoire. Enfin,
après, je veux dire.
123 yards.
Le truc, c'est que Foles est une énigme. Alors, peut-être qu'ils me font mentir que Foles sort encore la saison de sa vie, qu'il gagne 12 matchs. Mais peut-être qu'ils en gagnent aussi 6. Parce que. Voilà, enfin. Foles, voilà. 3 touchdowns dans 2 cartons pour Nick Foles. Alors, c'est pas Joe Montana, mais c'est quand même moins hésitant que Mitchell Trubisky.
C'est sûr.
Ce qui est déjà ça. Mais ça reste pour moi loin des Niners, des Packers, des Seahawks quoi.
Ce qui est intéressant, c'est moi je lisais un peu les interviews d'après match et les joueurs ont l'air de trouver ça plus fluide, plus efficace, plus sympa. Jimmy Graham qui disait, on sent que c'est plus cool, il y a plus de possibilités dans le playbook. Donc peut-être que là-dessus, c'est le bon choix. Maintenant, vu de l'extérieur, c'est difficile de se rendre compte de qui est meilleur entre Foles et Trubisky, quoi.
Ah non, de l'extérieur, c'est facile à dire, c'est Foles. Hein.
sur cette mi-temps-là. Ouais,
le problème, c'est aussi un peu ce que sous-entend Raoul, c'est que Foles, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Oui. Est-ce que c'est le mec de la saison record où il lance qu'une interception ou deux, je sais plus, en une saison avec Chip Kelly? Ou est-ce que c'est le Foles qui est benché, alors malgré un peu sa blessure qui ne l'a pas aidé, mais qui n'a pas réussi à reprendre son poste de titulaire à Gardner Minshew, tu vois, enfin. Voilà, lequel on va avoir. Alors, l'avantage, c'est qu'avec une grosse défense comme ça, 7 places en playoff, NFC Est à la rue, une NFC Nord plus ou moins à la rue aussi, en dehors des Packers. Bon, on sait pas, hein.
Après, on en parlait, je sais plus dans quelle émission, mais la pente va monter quand même rapidement, puisqu'ils jouent Colts, Buccaneers, Panthers, Rams, Saints.
Mais au moins, on va savoir vite.
Voilà. Après, ça se redécante au sens où bon, alors il y a Titans quand même derrière Saints, donc ils sont solides en ce moment s'ils n'ont pas le Covid. Ils finissent la saison avec Vikings, Packers, Lions, Texans, Vikings, Jaguars et Packers. Donc il y a une série de matchs qui est prenable, donc peut-être qu'ils peuvent aller en chercher 10. Hein. Mais donc je suis pas particulièrement hater et je leur souhaite de me faire mentir, mais pour moi ça reste quand même très très énigmatique en attaque, même si c'est solide en défense. Et après, je pense qu'en playoff, même s'ils passaient un tour par miracle, ils se font ouvrir parce qu'il y a en playoff
en
NFC.
S'ils gagnent un match de playoff, je sais pas, je mange mon chapeau imaginaire, je ne sais pas.
Broncos 10, Buccaneers 28, victoire un peu sans histoire de Tampa Bay face à une équipe décimée. Match en deux temps, gros boulot de l'attaque en première mi-temps avec 3 touchdowns pour Brady, gros boulot de la défense ensuite avec 2 sacs pour Shaquille Barrett. On a un bon aperçu du potentiel de cette équipe qui se met en marche en attaque et puis qui est solide en défense. D'ailleurs, Bruce Arians l'a dit, c'est peut-être ça d'ailleurs l'élément principal. Lui, il a dit, on a construit en défense.
Est-ce que
vous êtes d'accord avec ça?
Je trouve que c'est plutôt vrai. Hein. T'avais du taf fait sur la ligne défensive depuis quelques années. Ces jeunes escouades de rookies, enfin pas de rookies, mais de jeunes cornerbacks qui avaient été draftés ces deux dernières années à l'image de Davis, Ça a clairement travaillé sur la défense avant d'ajouter la petite pièce en attaque Tom Brady plus les derniers renforts. c'est pas mal, je trouve. Au final, ils ont un début de calendrier qui leur permet de se roder. Les Broncos cette semaine, la semaine d'avant les Panthers, ça te permet de monter progressivement en niveau, en pression. Donc c'est efficace. Après, comme t'as commencé à le dire, ils ont quand même joué contre plus grand monde. C'est un match.
Les Buccaneers jouent Chargers et Bears encore en derrière pour continuer le rodage. Donc c'est, après il y a un gros choc avec les Packers, mais derrière ils repartent sur Raiders Giants. Donc ils ont pas un calendrier affreux, clairement.
C'est l'avantage d'avoir fait des mauvaises saisons les années d'avant, c'est que du coup tu joues les équipes moins fortes au classement.
C'est vrai. Bon, c'est vrai que les Broncos, en dehors de Jerry Jeudy qui a essayé de faire son boulot, c'est compliqué. Jeff Driscoll n'a pas été vraiment convaincant. Ils ont testé derrière. Et j'ai en plus un trou sur le nom du remplaçant.
Tyler Ripien.
Ripien, merci. Voilà, je sais pas pourquoi je me rappelais pas de Tyler Ripien, pourtant excellent.
C'est bizarre de pas s'en rappeler. Ouais.
Voilà, donc ils vont en arriver à Blake Bortles à un moment ou un autre, visiblement. Là, à part attendre le retour de Drew Lock, il n'y a pas grand chose à faire du côté de Denver. Hein.
Ils n'iront nulle part avec Driscoll, en tout cas.
Puis parce que même en défense, t'as tellement de blessures, t'as celle de Joel Casey qui s'est ajoutée là. Enfin.
Ah oui, fin de saison, c'est bon, vrai pour Joel Casey.
Voilà, là c'est et c'est assez énervant. Enfin, c'est assez énervant pour eux parce que c'est le genre de saison où tu voulais voir si l'équipe progresse par rapport à l'an dernier et t'as l'impression qu'au bout de 3 semaines.
Ah, c'est horrible.
Bah, y a déjà plus rien à voir, quoi.
C'est horrible parce c'est que enfin, ça devait vraiment être une belle saison de progression, comme tu dis, et c'est vraiment hyper dur. Juste un petit mot pour finir, mais est-ce que vous pensiez, au début de la saison, je dis ça parce que je me suis fait remarquer à moi tout seul dimanche, que les Buccaneers de Brady seraient une des équipes les moins excitantes? Je sais pas, j'arrive pas, en fait. Je suis pas hypé de ouf, je trouve pas ça dingue ce qui se passe.
Est-ce qu'on en attendait trop?
Ouais, je sais pas, en fait. C'est pour ça que je pose la question.
Je suis d'accord, peut-être qu'on en attendait trop. Après, je pense qu'aussi, pour le moment, alors je sais pas si c'est le playbook, je sais pas si c'est Brady, mais il l'utilise pas encore magistralement, il l'utilise pas à la perfection encore. Mike Evans et Chris Godwin. Enfin, leurs stats aux deux sont en baisse quand même. C'est pas. Enfin, Jameis Winston, attention, hein, je vais pas dire que Jameis Winston était meilleur. Attention, tout de suite. Hein. Mais. Winston bombardait tellement que Tampa était assez fun à voir parce que ça allait dans tous les sens. Là, c'est plus propre. Donc, ce que tu perds en côté fun, tu le gagnes en efficacité.
Ouais.
Faut voir la fin.
En fait, je pensais pas que je serais vachement plus intéressé par les Patriots que les Buccaneers cette année.
Mais je pense que les fans les Buccaneers, ils sont très contents parce que j'ai vu la stat, ils n'ont pas gagné deux matchs à plus de 14 points d'affilée depuis 2010, novembre 2010. Donc ça fait 10 ans, si tu veux. Je pense que les fans des Buccaneers, ils sont contents d'avoir une attaque qui est efficace et qui roule.
Oui.
Et alors, j'en profite pour prêcher pour ma paroisse, mais hier, il y a l'équipe de Tampa qui a gagné le championnat NHL. Alors, c'est peut-être annonciateur pour la NFL, on ne sait pas.
D'accord, ils ont trouvé quelqu'un pour voir le palais et juger.
Voilà, bien sûr. Hein.
Je plaisante, bien sûr.
J'ai l'habitude, à chaque fois que je parle de hockey ici.
C'est leur premier titre. C'est leur premier titre à Tampa en NHL
d'avant. De mémoire.
Ah, deuxième.
C'est une bonne équipe, c'est globalement une bonne équipe.
D'accord. Les Giants 9, 49ers 36, pas de titulaire, pas de problème. Les Niners ont déroulé tranquillement. 343 yards à la passe pour Nick Mullens. Il faut saluer le boulot de Kyle Shanahan quand même.
Oui.
Parce que le mec, il a, je sais pas combien, je pense qu'il lui manque peut-être. Il y a 22 titulaires, il doit lui en manquer 24, hein, je pense, au rythme où on est. Et pourtant, les mecs ils déroulent mais comme si de rien n'était. Alors en face c'est une équipe semi-pro, hein, pour ainsi dire, mais bon, il faut quand même le faire. Non mais c'est incroyable ce qu'il fait.
Ah mais comme tu dis, là faut vraiment rendre à Kyle Shanahan beaucoup de mérite. On parle souvent de joueurs de système, de machin. Clairement le système c'est Kyle Shanahan. Tu lui donnes Joseph de la Conta, il va faire 50 yards au sol et il va avancer. Enfin c'est dommage, j'ai perdu mes notes. Je m'étais noté le nom de 2-3 mecs qu'il avait utilisé hier, qu'il avait utilisé ce week-end à la réception ou aux courses.
Attends, je vais te trouver ça.
Des no-name, des rookies non draftés, enfin ça court.
Alors,
ça.
Est-ce que tu parles de Ross Dwelley qui a capté 4 ballons, de Jeff Wilson Jr. qui en a capté 3,
c'est
de Jamical Hasty
qui en
a capté 1.
Jamical, ça c'est incroyable.
Tu te rends compte quand même que les mecs n'ont pas punté ce week-end.
Oui, mais ils ont déroulé.
Les 49ers n'ont pas punté. Alors,
ils ont marqué sur toutes les possessions.
Effectivement, on va en venir après sur l'autre gros problème de l'adversité qu'il y avait, mais clairement, là t'es obligé de rendre hommage à Shanahan parce que avoir un effectif capable de faire des choses. Malgré 20 blessures, enfin c'est
clairement
c'est excellent.
Mais, Je rejoins tout à fait ce que tu as dit, et c'est exactement ce que je pensais, c'est que c'est, pour le coup, lui, il y a des coachs qui disent « je veux mettre mon système en place et ça va marcher, machin », genre Adam Gase, tu vois, ou un truc comme ça. Là, lui, c'est vraiment ça, quoi, c'est incroyable, il peut, tu l'as dit, il peut prendre n'importe qui, si ça se joue sur les 4 Covid et qu'on continue à jouer une fois que tout le monde est infecté…
Il est champion,
hein, parce que lui, il va prendre n'importe qui. À la fin, il fera rentrer Robert Salah en défense. Bah,
ça sera pas le pire. Hein.
Et ça va être incroyable. Raoul, impressionné aussi, je suppose.
Oui, très impressionné. Raph disait, je crois, la semaine dernière, c'est bien la blessure de Saquon Barkley, ça permet d'ouvrir le playbook des Giants. Honnêtement, il aurait mieux valu le laisser fermer, le playbook. Hein, parce que...
Ouais, bah là, ils se sont fait ouvrir tout court. Il n'y a pas que le playbook qui a été ouvert.
Je viens de vérifier, tu sais que les Giants, ils punchent qu'une seule fois dans ce match. Hein.
Ils ah quand même.
Beaucoup plus.
Bah, faut dire qu'ils perdent beaucoup de ballons, donc ça évite les punts.
Ils font des field goals et ils font un turnover on downs sur le début de la deuxième période et derrière fumble et seulement un punt en fin de match. Donc il n'y a pas eu de punt avant le quatrième carton. Incroyable, donc, quel match.
Donc match fun pour Daniel Jones notamment, qui a encore perdu 2 ballons. Ça fait 6 ballons perdus en 3 matchs cette année, 20 fumbles en 16 matchs. Est-ce qu'on n'est pas sur une petite maladie de Parkinson là quand même au niveau des mains?
Sturman le retour.
Bah ouais, on est sur beaucoup de ballons perdus. C'est problématique parce que Eli Manning lançait des interceptions, mais il faisait pas tant de fumbles que ça. Là, le mec, c'est un peu compliqué avec Daniel Jones. Alors après, je lui jette pas totalement la pierre parce que
il y a rien autour.
Il y a encore une ligne offensive catastrophique. Il y a une escouade aérienne qui enchaîne les busts et les mauvais choix. Pour la défense, bon. Voilà.
Non mais c'est assez déprimant clairement. Ils ont été limités à 231 yards, ils n'ont pas marqué un seul touchdown et ils n'ont eu le ballon que 8 minutes en première mi-temps.
Mais contre l'équipe C des 49ers, enfin,
ils sont clairement en course pour le premier choix de la draft. Hein.
Non mais enfin ouais, là c'est pareil, hein, tu dis Dan Quinn mais il y a encore des gens qui ont du boulot à New York, moi je trouve ça assez incroyable. Enfin,
tu vises déjà le coach, il y a depuis 3
matchs.
Non,
pas tellement le coach mais le GM,
Surtout que le mec, bon, il serait dans une ligue, tu vois, genre ce serait la Ligue 1 où il a un budget 1000 fois inférieur au leader, mais là il a le même que tout le monde, donc a priori tu peux être jugé là-dessus. Hein.
C'est
ça. Cardinals 23, Lions 26, fin de série, après 11 défaites, les Lions ont enfin gagné. J'ai vu une interview de Matt Patricia qui disait je vais pas m'enflammer, bah tu m'étonnes, t'en as quand même perdu 11 avant, quoi. Donc leur défense a arraché 3 ballons quand même, un bon drive de Matt Stafford à la fin pour aller chercher le field goal de la gagne, un bon Peterson, un bon Kenny Golladay pour son retour. C'est le meilleur scénario pour Détroit, c'est le scénario où tout se passe bien. La question c'est de savoir s'ils peuvent reproduire ça. On était sur le plafond max de Détroit. Hein.
Oui, j'ai l'impression que le match se joue quand même pas mal à l'expérience un peu aussi de Matt Stafford versus Kyler Murray. Kyler Murray il fait encore des erreurs de jeunesse et Stafford il en fait plus. Donc, et il disait après le match... un drive de la victoire, il en a connu, ça fait 12 ans je crois qu'il est dans la ligue, il connaît le truc, il connaît le bail, il connaît le drill pour reprendre le terme et du coup ça, quand il est dans cette situation là, il est forcément favorisé par rapport à une attaque encore en rodage, hein, c'est pas honteux de le dire pour les Cardinals.
Kyler Murray ça a été 23 sur 35, 270 yards, 2 touchdowns mais 3 interceptions. C'est pas inquiétant, mais c'est quand même signe que tout n'est pas parfait hein, pour cette attaque, Raphaël, loin de là. Hein.
Non, tout n'est pas parfait. C'est tant mieux de s'en rendre compte maintenant. Enfin, on le savait de toute manière que malgré la hype un peu qu'entourait cette équipe, on est sur un quarterback qui a à peine 18 matchs dans la ligue en tant que titulaire, qui a fini sa première année l'an dernier. Enfin, bien sûr, tout n'est pas parfait. Malgré tout, malgré 3 interceptions de Kyler Murray, ils perdent que 2-3 points. En miroir hein, dit aussi que les Lions il n'y a vraiment pas de quoi s'enflammer non plus à ce niveau là il faut progresser j'ai envie de dire que vu le scénario du match être pas loin de l'emporter malgré tout ça c'est quand même l'idée que du côté des Cardinals il y a de quoi faire quoi.
Les Steelers 28, Texans 21, première fois depuis 10 ans que les Steelers commencent par 3 victoires, je pensais pas que ça faisait si longtemps. Qui commençait par 3-0. La défense a vraiment haussé son niveau de jeu au fil du match pour calmer Deshaun Watson qui avait bien commencé. C'est une des rares défenses qui va chercher des matchs en ce moment, j'ai l'impression. Raphaël.
Vas-y
Raoul, je faisais au hochement de tête. C'est à la visio.
Moi j'allais limite dire que sur ce match là, j'ai l'impression que c'est quasiment l'attaque qui s'est un peu sorti les mains du cambouis et qui a donné un coup d'accélérateur pour reprendre les devants. Et je me demande si c'est pas eux qui, bah, cette année, vont peut-être avec le retour de Big Ben et cette capacité à avoir des receveurs toujours performants et là un jeu au sol qui marche bien. Bah, je me demande si justement on n'est pas en train de sous-estimer un peu aussi cette attaque des Steelers, à toujours dire oui, c'est la défense qui les porte, c'est vrai. Mais je crois que l'attaque a un vrai coup à jouer.
Raphaël ?
Oui, je pense que l'attaque d'ici la fin de saison va être aussi un des moteurs des Steelers, à l'image d'un Big Ben qui est toujours un peu en diesel, et d'ailleurs cette stat de 3-0 à mon avis le montre aussi, d'un Big Ben qui est souvent en diesel en début de saison. Moi je me fais pas de soucis sur le fait que l'attaque va monter en régime. Après je trouve que là sur ce match là c'est encore la défense pour moi qui va chercher, parce que bloquer Deshaun Watson comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps, c'est pas toutes les défenses de la ligue qui en sont capables, surtout quand on voit ce qui se passe partout dans la ligue actuellement en termes de défense. Ils ont, de mémoire, ils ont encore 4-5 joueurs qui blitz dans tous les sens. On a un TJ Watt qui, j'ai vu passer la stat aujourd'hui, qui gagne, alors attendez, si je vous dis pas de bêtises, qui sur 29% de ses snaps gagne son duel, ce qui est le record à l'heure actuelle en NFL. Bon voilà, c'est Mike Litton fait l'interception qui change le match. Attention outsider.
Ouais, ils ont un front seven qui est énorme, il y a 5 sacks sur Watson. Là en plus, il y a 169 yards au sol, 37 minutes de possession. Ils sont dans les conditions idéales pour que Big Ben se chauffe, donc clairement. Mmh. Et après, bon, on l'a dit, c'est très dur pour Deshaun Watson qui se démène, mais toujours avec des moyens limités autour de lui. Donc voilà,
David,
il se
Johnson à 23 yards, on t'a fait venir ce mec là pour DeAndre Hopkins, mais oui, au secours.
Non mais voilà, il se démène. Après, ils ont eu un calendrier de l'enfer pour commencer, donc on pourra les jauger un peu mieux dans
mais
les.
C'est à peine mieux en vrai, hein, ça arrive, mais ça reste des équipes
chiantes,
ouais, casse-pieds.
Ah bah
d'accord,
ouais, mais bon, ils étaient dans les prétendants, hein, ils ont joué les playoffs.
Ouais.
Vikings 30, Titans 31, encore une défense qui galère. Les Titans sont autorisés plus de 450 yards pour la deuxième semaine de suite. Heureusement pour eux, celle des Vikings n'était pas bien meilleure. Et Steven Gostkowski, la star de ce match, a marqué son 6e field goal du jour pour donner l'avantage décisif à Tennessee à 1 minute 44 de la fin. C'était dur, mais ces Titans sont quand même vraiment solides cette année. Ils gagnent tous les matchs de très peu. Mais ils sont solides, ils font le taf. Alors ils sont solides sauf face au Covid où là il y a eu un petit relâchement de la défense. Mais en tout cas ils sont solides. Et s'ils meurent pas tous infectés par la terrible maladie, ils devraient quand même être des vrais prétendants en AFC.
Ouais, c'est limite dommage pour les Vikings parce que tu te dis, t'as l'air de retrouver un peu un allant offensif qui manquait sur les derniers matchs. Bah non, tu tombes sur une meilleure équipe de Tennessee. Après, voilà, si t'essayes de jouer force contre force et de vouloir imposer ton jeu au sol, bah ça marchera pas. En face, t'as Derrick Henry à chaque match. Moi, il m'impressionne à chaque match. Je sais pas, à chaque fois, tu te dis non, mais là, il va se faire bloquer. Non, il finit encore un touchdown où il saute en l'air, il défonce un gars. Enfin, c'est vraiment une locomotive, ce mec qui est beaucoup trop fort.
Du côté de Minnesota, tu l'as dit, hein, l'attaque s'est un peu réveillée. Justin Jefferson est à 175 yards, 180 pour Dalvin Cook, mais il y a deux interceptions pour Kirk Cousins, dont une en fin de match. Alors, il n'est pas affreux, mais il les limite maintenant, a priori, quand même, hein, Cousins, dans cette attaque de Minnesota.
Raphaël. Ouais, bah c'est le... Après, est-ce que c'est dans cette attaque particulièrement ? J'ai l'impression qu'on voit toujours un peu le même Kirk Cousins, après tout. Voilà, un quarterback qui va être capable de faire quelques jeux, qui globalement peut conduire une attaque, hein, contre beaucoup d'équipes dans la ligue, mais il va toujours manquer ce petit truc... Bon, il a une ligne offensive qui ne l'aide pas forcément non plus tout le temps. Hein. Et puis, bon, il faut aussi reconnaître que normalement, en marquant 30 points, il doit pouvoir gagner le match et sa défense ne l'aide pas particulièrement dans l'autre sens. Hein. Donc, le tout dans le tout fait que...
Ça, c'est la NFL de 2020. Il n'y a plus 30 points, ça ne te garantit plus un match.
Ouais.
C'est le troisième match de suite à plus de 25 courses pour Derrick Henry. C'est la première fois depuis Arian Foster qu'un mec fait plus de 25 courses par match sur les 3 premiers matchs de la saison. Donc, c'était en 2012.
C'était solide, lui.
Patriots 36, Raiders 20, victoire en forme de bourrinage au sol pour New England, pas un gros Cam Newton. Alors ils ont collé 250 yards au sol aux Raiders. C'est vraiment l'identité de cette équipe cette année. Ça fait penser aux Panthers de l'époque Newton, d'ailleurs, à l'époque où il y avait Stewart et Williams qui bourrinaient au sol chacun leur tour avec Newton en plus. Newton donc en cerise sur le gâteau. Si vous pensez en plus que Damian Harris doit revenir, que James White était absent pour cause de deuil, à mon avis, ils ne vont plus beaucoup me lancer le ballon, ces Patriots. Ils ont trouvé leur style cette année, Raphaël.
Ah, ils ont trouvé le style, retour, comme tu l'as dit dans ton papier, retour à la terre. Alors, je crois que tu l'as mis pour Cleveland, mais...
Pour les deux, ouais.
Ouais, c'est clairement l'idée. Ça leur réussit. Et tant mieux, parce que là, pour le coup, Newton était un peu moins bon sur la passe sur ce match-là, un peu plus en difficulté, j'ai trouvé. Écoute, il faut le dire encore une fois, hein, cette ligne offensive, et notamment Isaiah Wynn au poste de tackle, qui fait une excellente saison. J'ai vu passer la stat, il n'a pas encore accordé une seule pression sur son quarterback. Ça ouvre les brèches, ça joue très bien à ce niveau-là. Donc, bah voilà, une défense qui s'est reprise, une attaque qui avance, roule ma poule, quoi. Enfin,
et Joe Tunney qui glisse tranquillement au centre alors que leur centre titulaire est blessé, et pourtant ça continue à dérouler. En effet, il y a du très très bon matos. Ils ont été dans leur registre, la défense est opportuniste, ils arrachent 3 ballons. Bon, les Raiders, ça avait plutôt bien commencé, 2000 le début de match, hein, 103 yards à 38 dans le premier quart. Derrière, ça s'est quand même complètement retourné. Darren Waller a été limité à 2 réceptions pour 9 yards. Le génie de Bill Belichick qui enlève la meilleure arme offensive d'en face, comme il aime bien le faire régulièrement. Bon, Raoul, pour ces Raiders, c'est un peu juste. C'est une équipe qui peut avoir des arguments, mais qui, voilà, face à une défense aussi solide que celle des Patriots, là, pour le coup, Derek Carr continue de manquer d'audace, et tu peux pas manquer d'audace contre une défense aussi solide.
Non, d'ailleurs j'ai pensé à vous parce que j'ai vu une vidéo de Stephen Naismith qui dit que maintenant il est dans le camp de Derek Carr parce que c'est pas normal qu'on lui manque comme ça de respect. Je me suis dit que même si Stephen me trahit, je vais me retrouver tout seul contre Derek Carr. Je suis pas contre Derek Carr, mais en fait cette équipe des Raiders, on l'a vu la semaine dernière face aux Saints, elle a été un peu aidée par les erreurs discipline notamment des Saints qui ont pris beaucoup de pénalités. Si tu te contentes de bien défendre et de bien les contrôler, il leur manque un truc. Et je sais pas si c'est un joueur, je sais pas si c'est de l'audace en attaque, si c'est quoi que ce soit, mais ils ont un plafond de verre qui est assez identifiable, et tant qu'ils changeront pas quelque chose, je pense pas qu'ils iront beaucoup plus loin que ce qu'on a pu voir là face aux Patriots.
Browns 34, Washington 20. Est-ce que les Browns sont le meilleur duo de coureurs de la ligue?
Ouais.
Ouais.
Pour moi, clairement, c'est le plus complet. Ouais.
Oh, Burkhead et White, c'est bien quand même, non? On l'a pas vu White. Mais
individuellement, c'est pas les mêmes talents quand même. Hein.
Non.
Bon, en tout cas, ils ont trouvé une identité aussi, là encore, du jeu au sol. Mais ça a l'air de coller pour tout le monde. Parce que quand Odell Beckham dit qu'il veut aider ses coureurs, ça paraît anodin, mais est-ce qu'on l'avait déjà entendu dire ça?
Non. Et même, je trouve que l'état d'esprit de Beckham a l'air bien plus positif. Il y a un moment où il y a une action, il y a un ballon qui est lancé n'importe comment de la part de Mayfield vers lui, et il se retrouve à devoir défendre. Et il défend, il fait un geste assez marrant de vraiment dunker la balle au moment où elle arrive sur le défenseur. Et je trouve que c'est la preuve d'un investissement et d'un état d'esprit un peu plus positif que ce qu'on pouvait voir après 2 semaines. Donc c'est plutôt rassurant, ouais.
Mayfield n'a plus d'excuses d'ailleurs, parce qu'il y a une très bonne ligne en ce moment. Un jeu au sol qui est très bon aussi. Là, il est dans les meilleures conditions.
Il est dans des très bonnes conditions, effectivement. Les meilleures depuis son année rookie. Après, il continue à lancer des vieilles passes quand même de temps en temps. C'est pas encore parfait de son côté. Je sais pas.
En tout cas, ils ont, encore une fois, moi j'aime bien le fait qu'ils aient trouvé une identité de jeu, qui est leur playmaker défensif, qui ait fait quelques bonnes choses. Évidemment, il n'y avait pas grand-chose en face, mais il faut se faire la main sur les petits, hein, c'est l'habitude, sur les petites équipes. Mais voilà, s'ils peuvent après appliquer les mêmes concepts contre des équipes plus fortes, peut-être que ça peut donner quelque chose. En tout cas, ils sont en positif pour la première fois depuis 6 ans, je crois.
Ouais.
Donc c'est quand même plutôt pas mal. Dwayne Haskins, intercepté 3 fois, saqué 3 fois. C'est pas un grand quarterback, mais c'est aussi indicatif qu'il y a eu un bon boulot de la défense de Cleveland. Mais Ron Rivera commence à parler de limites, puisqu'il disait qu'il y a des joueurs qui méritent de gagner tout de suite dans l'effectif, etc. Bon, la limite, est-ce qu'elle s'approche? Est-ce que quand le coach commence à l'insinuer, c'est que...
Est-ce que la limite, c'est pas... Enfin, tu vois, je regarde depuis le début de la saison, ils ont mis 62 points en 3 matchs, donc à peu près 20. Est-ce que c'est pas ça leur limite, en fait? Moi, je me dis, face aux équipes pas hors top 10 de la ligue, ils sont capables de mettre 20 points et voilà. Donc, pour les équipes en face, t'as juste à faire mieux. Je pense que c'est peut-être ça la limite dont il parle, Rivera.
Et comme tout le monde marque 30 points par match, et
voilà. Tu perds mathématiquement. Sauf les Eagles.
Raphaël, tu lui donnes combien de temps encore à Dwayne Haskins?
4-5 semaines, je pense, pour voir du progrès. Sinon, ça sent la pâquerette.
Colts 36, Jets 7. Philip Rivers, 400e passe de touchdown, 6e joueur de l'histoire à atteindre ce cap derrière Breeze, Brady, Manning, Favre et Marino. Peyton Manning, évidemment. C'est à peu près tout ce qu'il y a à retenir de ce match, tant il n'y avait pas photo. Hein. Les Jets sont probablement la pire équipe de la Ligue ou une des pires équipes de la Ligue, que ce soit pour l'effectif ou la gestion, hein, parce que c'est un travail de concert, évidemment. Trois interceptions, dont deux retournées pour des touchdowns par Sam Darnold. Enfin, des interceptions de Sam Darnold, dont une dès le début. Est-ce qu'on attend autre chose que la fin de l'ère Adam Gaze, maintenant, quand on regarde ces matchs, en fait ?
Non.
Non, parce non.
Parce qu'on ne pourra pas juger Darnold tant que Gaze sera là.
Bah, c'est ça, c'est coaching beaucoup trop limité. Là, il y a un lot de blessures, faut quand même avouer que pour le coup. Alors, je sais bien que t'as raison, les blessures ça excuse pas tout, mais quand déjà t'es une équipe très très moyenne et qu'en plus l'ensemble, la plupart de tes titulaires sont pas là, ça commence à être un peu compliqué. Et t'as raison, c'est dur de. Même si moi je suis embêté de pas avoir plus de progrès chez Sam Darnold que ce qu'on pourrait attendre d'un quarterback en troisième année. Mais il est tellement. Enfin, Gaze est tellement. Bref.
Pour tout, le monde est compatissant. Parce que tu vois, même dans les commentaires du site sur les résumés de matchs des Jets, les fans des équipes adverses disent bah, désolé, bon courage pour la fin de saison. Mais c'est triste. Il y a une tristesse ambiante.
Darnold, c'est les mêmes matchs depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un éclair où de temps en temps tu te dis ouais, c'est vrai qu'il a du talent. Et puis il y a des galères quoi, donc c'est un peu compliqué. L'attaque des Colts donc a fait ses gammes, hein. La défense statistiquement est la meilleure de la ligue actuellement. Xavier Rhodes qui revient quand même, un des anciens très bons vétérans des Vikings qui maintenant est à Indianapolis, 2 interceptions. C'est du solide ou c'est surtout ce qu'il y avait en face pour la défense des Colts, parce qu'ils ont joué Jags, Vikings, Jets. Donc ils autorisent je crois 230 yards par match, enfin c'est un truc délirant, hein. Pour l'instant ça va remonter clairement. Mais est-ce qu'on est face à une des meilleures défenses de la ligue?
Oh, c'est... Pour le coup, je pense vraiment que le calendrier les met un peu plus beaux que ce qu'ils ne sont. Peut-être qu'ils sont pas mauvais. Enfin, bien sûr qu'ils sont pas mauvais, hein, c'est sûr. Maintenant, on attend peut-être de voir face à une vraie attaque.
Ce sera top 10, quoi.
Oui, top 10, c'est pas volé aujourd'hui.
Raphaël est d'accord pour top 10, je le vois.
Ouais.
Qui hoche la tête. Chargers 16, Panthers 21, Justin Herbert épisode 2. C'était moins fameux, Raoul.
Alors, c'était moins fameux. Maintenant, c'est frustrant ce match parce qu'il y a du positif et, quand même, dans la mesure où l'attaque ne fait que encaisser des field goals sauf un touchdown. Mais elle laisse quand même à chaque fois ces Panthers qui, sur le papier, sont quand même pas la panacée. Arriver jusque dans la red zone. Et du coup derrière on demande beaucoup je trouve à Justin Herbert, il doit lancer 57 ballons je crois sur le match.
49, c'est déjà pas mal.
C'est déjà beaucoup, c'était ça mon point. Et je pense que là où le jeu au sol avait beaucoup aidé la semaine dernière face aux Chiefs, il a été un tout petit peu moins performant cette semaine. Voilà, maintenant sur le papier, moi je reste convaincu qu'il faut mettre Herbert titulaire. Je veux pas voir Tyrod Taylor. Je suis sûr que Herbert ne peut que s'améliorer et je vois pas quel intérêt de mettre. Enfin, pour moi, Taylor n'aurait rien apporté sur ce match-là de plus, quoi. Donc,
oui,
on continue à essayer de progresser.
Il est dans des bonnes conditions pour apprendre en plus, quand même. Il y a Keenan Allen autour, il y a du matos. Raphaël, je sais que tu avais apprécié la première sortie de Justin Herbert. Tu restes dans la team Herbert derrière.
Oui, non, complètement. On voit quand même que sur plusieurs séries, il a quelque chose. Alors oui, il y a ses erreurs de rookie, interception, fumble. C'est pas très très propre. Hein. On n'est même pas étonné. Mais non, moi je reste derrière lui, clairement, vu ce qu'il a montré. Il y a rien de honteux pour un rookie, il n'y a rien de catastrophique.
Alors, les Panthers gagnent avec seulement. Je suis traumatisé, je vais les faire deux fois maintenant. Les Panthers gagnent avec seulement 302 yards au compteur contre 436 aux Chargers. Ouais. C'est surtout parce que Carolina ne perd pas de ballon alors que les Chargers en perdent 4. Tu l'as dit, Raphaël, il y a une interception qui fait très mal avant la mi-temps notamment. Ça reste quand même une équipe très jeune de Carolina. Il y a 5 field goals, c'est encore poussif dans la red zone. Voilà, c'est il y a encore de gros progrès à faire en défense aussi parce qu'ils prennent donc 436 yards, on l'a dit. S'il n'y a pas toutes les pertes de balles, ce match-là, en théorie, il n'est pas vraiment pour eux.
Ouais, et puis non, mais en plus, tout à l'heure, j'ai un peu spoilé ce que j'en pense, mais ce play calling à la fin de match des Chargers qui sont censés être en 2 minutes offense et qui sont censés aller un peu vite, quoi. Et bah, on fait viser 4 passes de 5 yards au milieu du terrain, le chrono s'égrène, il n'y a rien à comprendre, quoi. Bon. Ce match-là était largement à la portée de Los Angeles et il est perdu assez bêtement.
En tout cas, Matt Rhule a sa première victoire, ça fait toujours du bien. On termine avec le Jaguars Dolphins, 31-13 pour les Dolphins, pardon. Gros match de Ryan Fitzpatrick, c'était le jeudi soir, 18-20, 160 yards, 2 touchdowns, même un touchdown au sol pour lui, il était dans un de ses bons jours. Je vous laisse en parler parce que moi j'en ai parlé pendant le fauteuil. C'était un bon jour de Ryan Fitzpatrick.
Oui, face aux Jaguars, voilà. Toujours en début de saison, il fait toujours un match incroyable en début de saison face aux Jaguars. Donc là, c'était cette semaine, bravo à lui.
Il n'y a pas grand chose à sauver pour les Jaguars à part James Robinson sur ce match. Hein.
Ouais, non, une attaque des Jaguars qui a vraiment été en difficulté pour le coup face à la défense de Miami. Il va falloir surveiller ça parce qu'après un peu l'euphorie Minshew début de saison, s'il commence à rentrer dans le rang, ça posera forcément question. Après, on savait que les Jaguars étaient très limités. Hein. Il n'y a pas de surprise à ce qu'ils perdent face à une équipe un peu meilleure, a priori, sur le papier. Quoi.
C'est les mêmes, est-ce que c'est les mêmes Dolphins que l'an dernier? J'ai du mal à voir. Enfin, il y a une légère progression interne, quoi, mais...
C'est globalement les mêmes.
Oui, on est d'accord. Oui,
ça ne change pas beaucoup. Tant que Tua n'est pas là, ça ne changera pas beaucoup, je pense.
Bon, alors on attend Tua et on passe au top et au flop. Les tops et les flops de la semaine. Raoul, allez, à toi de jouer.
Eh ben, on vient d'en parler. Mon top, c'est l'interview d'après-match de Ryan Fitzpatrick qui m'a fait hurler de rire comme à chaque fois avec sa chemise à fleurs grande ouverte à moitié au niveau du torse et lui qui répond très calmement à la journaliste. Bien sûr, les poils ici font partie maintenant de ma personnalité. J'ai appris à les accepter. D'ailleurs, à toutes les femmes devant la télé, je dis que je suis déjà pris. Et à ma femme, je dis qu'il est l'heure de coucher les enfants. Pour moi, c'est incroyable. Ce mec est un troll ultime.
Il en
tellement
faut.
Content d'être là et c'est trop cool, c'est rafraîchissant.
Il en faut. Raphaël, ton top?
Et ben mon top, j'en ai plus ou moins parlé donc je vais aller très vite, mais c'était Kyle Shanahan par rapport à la capacité de résultat vis-à-vis de l'effectif et de la pluie de blessures avant match et même pendant match encore avec quelques pertes encore, malgré tout, félicitations quoi.
En effet, on l'a dit et c'est amplement mérité. De mon côté, je vais vous demander qui est selon vous le meilleur sacker de la NFL après 3 semaines?
Bonne question. 2-3. C'est pas avec, Shaquille Barrett.
Avec 4 sacs.
Shaq Barrett.
Avec 4 sacs.
Ah, je l'ai pas là.
J'ai essayé d'aller gruger, mais j'ai pas eu le temps.
Et bah, c'est Aldon Smith. Le meilleur sacker en NFL, c'est un mec qui a pas joué depuis 5 ans. Je sais qu'on a déjà dû le mettre en top depuis le début de l'année, mais ça mérite quoi, de voir la stat qu'il était numéro 1 sur les sacs en NFL après 3 semaines pour un mec qui revient de nulle part. Et tant mieux, il a eu un parcours difficile, il a eu plein de problèmes, tant mieux pour lui s'il va mieux. Donc je trouve que c'est une super histoire. Je pense qu'on en lira des choses sur lui si tout se passe bien jusqu'à la fin de la saison. Il va y avoir des portraits ESPN et tout ça qui vont défiler. Raoul, ton flop?
Mon flop, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, l'overtime et l'égalité, bien sûr.
Merci.
Pour vous rappeler quand même, messieurs, des 4 sports majeurs américains, le football américain est le seul qui peut se terminer en égalité. Dans tous les autres, c'est impossible. Ça va toujours en prolongation. Il y a toujours un moyen d'avoir une victoire à la fin. Il y a soit des tirs au but, soit des prolongations infinies, ce que vous voulez. Mais au foot américain, ça n'existe pas. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi on ne décide pas de faire soit des coups de pied, soit des attaques éclairs, chacun son tour. Mais faites quelque chose, quoi.
Système NCAA.
Enlever ces égalités, c'est horrible. La prolongation, très bien, mais les égalités, zut, pour rester poli.
Merci Raoul. Je l'avais aussi. Mais pourquoi on ne prend pas le système NCAA? Je veux dire, c'est...
Je ne sais pas.
S'il y a bien des trucs que les proprios NFL doivent rêver de prendre à la NCAA, normalement, c'est les joueurs pas payés. Et ça.
Après, pour notre... tranquillité, on va dire. Est-ce que les Eagles et les Jets seront vraiment dans la course au playoff à la fin? Il faudra calculer des petits comptes d'apothicaire.
Bah, les Eagles dans leur division, c'est possible.
J'ai dit les Jets, excusez-moi,
c'est les Bengals. Ouais. Non, mais je sais pas, je trouve que le système NCAA il est parfait au sens où t'as un ballon chacun, celui qui marque, et puis ainsi. Si tu marques un touchdown, l'autre doit marquer un touchdown, sinon il a perdu, et puis ainsi de suite. En plus, ça règle la question qui était tout le temps de dire: ah, mais celui qui perd le tirage au sort, il a pas le ballon. Bah, comme ça, chacun a le ballon, il n'y a pas de chrono, c'est fini une fois
on
que.
D'accord.
Voilà, c'est des tirs au but en mieux, quoi. Donc, je sais pas, moi, je trouve ça cool. Après, tu joues des quatrièmes tentatives, tu fais des trucs. Enfin, voilà, c'est ça. Bon, on est d'accord, Raoul, c'est... Quelle angoisse. Et puis, tu sais, en plus, là, ça donne des prolongations molles où les mecs, ils osent pas. Enfin, ça a aucun intérêt.
Heureusement que c'était 10 minutes et plus 15, hein, parce que j'aurais eu égalité quand même.
Au moins, dans le système NCAA, les mecs, ils se rendent dedans. Ils veulent aller marquer les points. Là, les gars, ils se regardent. Oh, bah non, en fait, je vais punter. Tiens, voilà, merci, match nul, au revoir, quoi. Non, mais sérieusement. Raphaël, ton flop?
Et ben moi c'était les défenses aussi, on a égrené, mais là c'est quand même très difficile à voir, hein. Il y a peu de belles actions défensives à se mettre sous la dent depuis le début de saison. Donc voilà, et puis à l'image de cette course réception, je sais plus exactement, mais d'Alvin Kamara où là c'est pas possible quoi, c'est pas possible.
Oui, tout le monde rebondit sur lui.
Ah ouais, non. Ouais,
ouais. C'est
toujours le même problème, c'est espèce de plaquage rentre dedans au lieu de faire des plaquages en enserrant le joueur. Mmh. Au bout d'un moment, tu vois, les équipes qui le font, c'est celles qui défendent le mieux.
C'est la culture du fumble quoi.
Oui, mmh. Oui, oui.
Ah ouais, mais bon, quand tu te jettes avec l'épaule semi de trois quarts d'eau, c'est c'est particulier quand même. En flop, alors c'est un flop de mauvaise foi parce qu'en vrai ça m'a fait mourir de rire, mais donc DK Metcalf qui arrive dans la end zone tranquille ou pilou avec le ballon sur la main et qui se le fait taper par un défendeur, c'est quand même drôle. Mais en même temps, Metcalf honnêtement c'est mon flop pour ça, mais en même temps mon top parce que c'est vrai qu'il est tellement fun à voir jouer. Je pense qu'il n'y a pas un receveur qui est aussi fun à voir jouer cette année pour l'instant quoi. C'est un clairement. Tank. C'est un tank qui martyrise les cornerbacks quoi.
Non, donc, c'est incroyable. Ouais.
Donc c'est un faux flop parce qu'en vrai je l'adore. Donc,
Jefferson il fait une réception rigolote aussi où il envoie deux défenseurs se rentrer dedans du côté des Vikings.
C'est vrai. Bon. Voilà donc messieurs pour l'épisode numéro 364 du podcast Touch on Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à vous. Je crois qu'on n'est pas loin. Alors ça va se jouer à quelques euros, mais a priori on est sur le record sur un mois Tipeee. On a dépassé les 1000 euros. Donc merci encore à vous de nous soutenir. En plus ça va être utile s'il n'y a plus de match à cause du Covid dans 3 semaines parce que les Titans sont enfilés tout ça à tout le monde. Donc merci beaucoup de nous soutenir. En plus il y a des contreparties là. Il y a du stickers, il y a du sous-vert, il y a des pins. Et je le donne en avant-première pour le podcast, mais a priori je devrais commander les magnettes.
Oh oh oh.
Et ouais, il y a du goodies là qui rentre cette année. Hein.
C'est beau.
On fait pas semblant. Merci à Ouette, à Léo, à Léo Dagan, à Jeff Veder, à Freddy Stones, à Christophe et à Geoffrey. Merci à tous de nous soutenir, bien évidemment. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu et Instagram @TDActu en entier. @Raphaël_TDA pour Raphaël sur Twitter, @RaoulVDG pour Raoul, @AlainMatei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. Merci beaucoup, messieurs.
Merci à toi.
Et c'est le moment où je lance. Voilà, il faut que je me réhabitue à se lancer en même temps. Merci beaucoup, messieurs. Très bonne semaine à tous. À jeudi pour la prochaine émission. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto. Les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Fishbot pour Marshall Lynch, Rotlash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.